Mais il faut le réagir de manière légitime. Et c'est vrai que les indulgences, les scandales, certains scandales des indulgences devaient être catholiquement dénoncés. Mais le caractère emporté de ce personnage qui est en grande difficulté lui-même fait que, après des discussions avec le Tetzel, le dominicain qui, dans la région de Wittenberg, faisait la prédication des indulgences, rien ne va plus, il n'arrive pas à s'entendre, il se dispute. Et donc il finit par placarder sur l'église de Wittenberg 95 thèses qu'il a rédigées lui-même. Le 31 octobre, la veille de la Toussaint, donc, pour Halloween. Il affiche ses 95 thèses notamment contre les indulgences, bon, qui ont des éléments de vérité très très bien vus, beaucoup d'éléments polémiques, beaucoup moins judicieux. La polémique dans l'église, ça marche pas, hein. Si vous parlez au pape de manière polémique, ben ça va mal se passer, hein, même si vous avez raison. Et puis aussi des erreurs, là j'en ai sélectionné 3, 4, 5, je sais pas combien. Exemple. Il n'est pas prouvé que toutes les âmes du purgatoire, donc c'est lui qui parle, hein, que toutes les âmes du purgatoire soient parfaitement assurées de leur béatitude. Ben si, tous ceux qui sont au purgatoire seront au ciel. Donc c'est faux. Il se trompe. Par la rémission plénière de toutes les peines, le pape n'entend parler que de celles qu'il a imposées lui-même et non pas toutes les peines en général. C'est faux. Toutes les peines sont remises par l'indulgence plénière. Et thèse suivante, donc c'est la 19, 20 et 21. J'ai pris un tiercé là. C'est pourquoi les prédicateurs des indulgences se trompent quand ils disent que les indulgences du pape délivrent l'homme de toutes les peines et le sauvent. Bon, le sauve, c'est vrai. Les indulgences ne sauvent pas, mais elles délivrent des peines, oui. Allez, hein, quelques tranches encore. Il est clair, en effet, que pour la remise des peines et des cas réservés, le pouvoir du pape est insuffisant. Ben non, c'est pas clair, c'est faux. C'est la thèse 61. La 86. Pourquoi le pape n'édifie-t-il pas la basilique Saint-Pierre de ses propres deniers ? Ça, c'est la polémique. Plutôt qu'avec l'argent des pauvres fidèles, puisque ses richesses sont aujourd'hui plus grandes que celles des plus gros richards. Ça, c'est vraiment... Il crache, quoi. Ces 95 thèses ont été rédigées par Luther, bon, au début, pour la disputation, donc la discussion théologique qui devait avoir lieu et qui eut lieu, notamment avec Johannes Heck à Leipzig, en 1519. Et après cette discussion, et après tout, pas mal de polémiques, bon, vous comprenez, quand vous avez 95 thèses sur ce ton-là, c'est très difficile de trouver un terrain d'accord. Parce qu'il y a une fièvre dans ces 95 thèses. Le 15 juin 1520, le pape Léon X publie donc la bulle Ex Urge Domine, qui demande à Luther de retirer 41 erreurs contenues dans ses 95 thèses. C'est encore plus ou moins raisonnable. Il n'est pas encore excommunié. Il lui donne un délai de 60 jours et il ne condamne pas explicitement ses thèses. Il demande qu'il retire 41 erreurs. Luther entre alors ouvertement en conflit avec l'Église parce qu'il est agité de l'intérieur. Il brûle alors, en décembre, donc c'est en juin qu'il reçoit la bulle Ex Urge Domine, et en décembre, il brûle en public la bulle Ex Urge Domine, ainsi que la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. C'est bien la preuve que sa formation intellectuelle l'a trahi, il a été mal servi par sa formation intellectuelle. Les décrétales des papes, c'est-à-dire la plupart des lois dans l'Église, comme qui dirait le droit canon, si vous voulez, et les écrits du père Johannes Heck, avec qui il a eu la discussion en 1519, l'année précédente, à Leipzig, pour essayer d'arranger les choses. Et à qui il en veut beaucoup, parce qu'il est, il s'est fâché pendant la discussion plusieurs fois. Peut-être que Heck n'était pas parfait, mais en tout cas, lui, il brûle ses œuvres. Ça, les affaires sont très passionnelles, quoi. C'est très passionnel. En octobre 1520, quelques semaines avant, donc, il écrit au pape Léon X une lettre dont je vous cite un passage qui est authentique, parce que j'ai d'autres documents, mais qui sont, je ne suis pas sûr d'authenticité, mais celui-ci est authentique. C'est cité par, vous savez, la collection Je sais, que sais-je, chez PUF, la presse universitaire de France, que des universitaires qui écrivent là-dedans. La réforme, que sais-je, PUF, 1970, page 25. Et il écrit à Léon X, « Garde-toi, ô Léon, mon père, hein, de prêter l'oreille à ces sirènes qui font de toi quelque chose de plus qu'un homme ordinaire, presque un dieu, qui puisse tout ordonnancer, tout ordonner et tout exiger. Il erre, il se trompe, ceux qui t'exaltent au-dessus du concile et de l'Église universelle. » Il explique au pape, « Vous trompez, vous n'êtes pas au-dessus des autres. » Et le concile est plus grand que vous. Et là, le conciliarisme qui a hanté l'Église depuis un siècle a frappé de plein fouet l'intelligence de Luther lui-même. Voilà le contexte historique lointain et proche, et puis le drame intérieur, puisque la deuxième partie c'est le drame, que Luther a subi et a été aussi l'auteur. Hein, et je ne condamne pas Luther, personne n'a condamné quiconque dans le fort interne, donc dans sa conscience. Mais il faut dire quand même que c'est un manque d'équilibre très profond de ce religieux qui aurait dû être détecté et aidé par son ordre religieux. Est-ce que vous avez quelques questions? Après, j'aurai une petite conclusion, si jamais je la retrouve. Avez-vous quelques questions sur ça? Parce que... Oui.
Le récit s'arrête finalement à Luther. Mais comment est-ce que de là on fait le protestantisme?
Ah, les trois points, c'est la foi, confiance. Faire confiance, donc, les œuvres sont tout à fait secondaires. Ensuite, l'écriture sainte doit être lue par chacun, et donc l'autorité de l'Église n'existe pas. Chacun trouve dans la lecture de l'écriture sainte sa nourriture, librement. Et la grâce, c'est le bon Dieu nous sauve parce qu'on lui fait confiance. Si on ne lui fait pas confiance, il ne nous sauve pas. C'est les trois grands points du protestantisme luthérien, protestantisme en général, la foi, confiance, la sainte écriture. Je la lis et je fais ma religion, et puis l'incapacité à faire des bonnes œuvres, donc c'est la grâce qui me recouvre. C'est pas ça votre question?
Et de là, oui, c'est un premier pas, mais de là, comment est-ce qu'on fonde la religion? Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se convertissent.
Ah, il n'y a pas de religion protestante, ça n'existe pas. Il n'y a pas de religion protestante. Enfin, il n'y a que des protestants.
Voilà. Enfin, il y a quand même eu des églises, il y a eu
des groupements, parce que dans toute œuvre il y a toujours des regroupements avec des gens qui sont plus spécialisés que d'autres. Donc le pasteur est quelqu'un qui est mieux formé qu'un autre, il a reçu une formation complémentaire et il a donc son groupe de fidèles. Mais en soi, il n'y a aucun droit à partager le monde entre différentes paroisses protestantes, etc. Alors certaines obédiences protestantes ont gardé des structures proches de l'Église, d'accord, par pur, pragmatisme. Mais c'est absolument pas fondé. Donc le jour où le fidèle ne veut plus, il va voir un autre. C'est parfaitement légitime. Il se bouffe le nez quand même, parce que l'humain est jaloux, mais religieusement, c'est légitime. Oui. Donc il n'y a pas de protestantisme ni de religion protestante. Il n'y a que des protestants. Ça, vous avez d'autres questions? Oui, je vous en prie.
Si je me permets,
Moi, j'en aurais si j'avais entendu ça, hein, je peux vous dire. Parce que les choses que j'ai pas dites.
Et l'attitude de l'Église aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est ?
L'attitude de l'Église aujourd'hui ? Ah, mais l'œcuménisme. L'œcuménisme privilégie aujourd'hui ce que nous avons en commun. Donc la tendance actuelle, et je parle sous contrôle, est de mettre en valeur ce qui nous rapproche ou ce qui nous est commun avec les confessions chrétiennes autres. Ce qui est une idée comme une autre. Mais il ne faut pas le faire au point de taire les différences ou les erreurs. Cela dit, il est vrai que... Donc il ne faut pas le faire au point de taire les différences ou les erreurs définitivement, parce que sinon on arrive à une espèce de soupe populaire générale chrétienne et l'Église catholique devient un élément de le christianisme, alors que l'Église catholique est la maîtresse de la vérité religieuse. Mais en même temps, donc, si on prend cela comme une manière d'aborder un individu, c'est pas si idiot que ça. Parce qu'on aborde un individu de confession protestante en parlant un peu quand même avec lui, et donc évidemment, on va l'engager à découvrir la Sainte Église catholique romaine comme un enrichissement pour lui. Et non pas d'abord comme celle qui a excommunié son lointain arrière-grand-père. Et c'est la vérité. Parce que lui, il a hérité une foi chrétienne de type protestante, par exemple. Il est de bonne volonté. Il veut dire, c'est très bien, vous avez déjà reçu pas mal de choses, c'est mieux que rien. Hein. Oui, être chrétien, c'est quand même mieux qu'être païen, normalement. Donc, c'est bien, mais moi, j'ai encore mieux. Et en fait, ça revient à peu près à ce que raconte dans son livre Prêtre rejeté un Anglais qui fait part d'un souvenir d'enfance. Et lui, l'auteur est protestant, anglican, et son voisin Hippolyte, donc lui s'appelle Brian, et Hippolyte, son voisin, est catholique, c'est un papiste. Et nous sommes en Angleterre, donc le papiste n'a pas le beau rôle. Et un jour, ils discutent comme ça, après avoir joué, et l'anglican dit à Hippolyte, « Waouh, dimanche, j'étais au service religieux, c'était magnifique, on a chanté pour Jésus, on a parlé de Jésus, c'était magnifique. » Et Hippolyte lui dit, « Oui, moi aussi, dimanche, j'étais à la messe, et nous, c'est Jésus. » Et alors, il s'est resté tout le temps dans son âme. Et puis, quand il s'est converti, il a pensé à ça. Donc, on parle de Jésus à la messe chez nous. On essaye, on prie, on chante, mais la messe, d'abord, c'est Jésus. C'est bien plus riche que de parler de Jésus. Mais c'est un peu comme ça que l'œcuménisme, je crois, enfin, c'est très maladroit ce que je dis, mais fonctionne. Donc, parler des choses qui rapprochent et pas des choses, ou peu des choses qui séparent. Mais il ne faut pas devenir protestant ou faire croire que c'est pareil. Ce serait un irénisme qui est condamné par le droit canonique, par le catéchisme de l'Église catholique. Jamais l'Église catholique ne veut faire ça. Maintenant, on fait des grands... vous vouliez peut-être dire aussi qu'on fait des sortes d'hommages à Luther, etc. Oui, là, je reste stupéfait, quoi. On ne peut pas le donner comme un modèle. C'est impossible.